Nous allons prier tous ensemble. Seigneur, c'est à toi que nous voulons être entièrement. Justement à cause de ce prix qui a été payé à la croix, à cause de cette œuvre de réconciliation, nous sommes conscients que nous avons été rachetés. Racheté, Seigneur, à cette destinée éternelle qui était la nôtre, racheté à notre appartenance aux ténèbres. Tu nous as entièrement rachetés pour que nous soyons à toi et pour que nous t'appartenions entièrement. Nous voulons être à toi, Père. Nous voulons que nos cœurs soient à toi. Nous voulons que nos vies soient à toi. Nous voulons que chaque dimension de nos existences, de nos familles soit à toi. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons nous mettre à ton écoute. Seigneur, et que nous voulons essayer de comprendre comment nous pouvons faire pour pleinement t'appartenir. Seigneur, nous sommes là avec des cœurs désireux de rester enflammés. Nous voulons être enflammés pour toi, pour ta volonté, pour ton royaume, à cause de ce que tu as fait pour nous. Alors Seigneur, alors que nous sommes là devant toi, nous te demandons vraiment de nous rassasier par la compréhension de ta parole. Nous savons que la comprendre, c'est impossible pour l'intelligence humaine. Alors nous te demandons vraiment que ton Saint-Esprit nous éclaire, nous montre les choses, nous fasse comprendre, pour que Seigneur nous puissions vraiment saisir ta parole, la recevoir dans nos cœurs et la mettre en pratique. Règne dans ces instants, Seigneur, et que toi seul tu te fasses entendre dans ces moments d'enseignement de ta parole. Nous te le demandons, Père, par Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer par faire une lecture dans la Bible avant de commencer aujourd'hui. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 8, qui va être notre texte de référence. Et nous allons lire du verset 1er au verset 19. 2 Corinthiens 8, 1 à 19. Il est écrit ceci. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoive pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui a ramassé peu n'en manquait pas. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Amen. Alors, nous allons repartir de ce texte-là pour continuer dans ce que nous avions entamé les dernières fois et là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Alors, pour rappel, nous étions au point où nous avions rappelé que l'offrande se donne dans une optique de solidarité. On avait vu que l'offrande est un geste d'obéissance, c'est un geste de consécration, c'est un geste pour l'avancement du royaume de Dieu, mais l'offrande est aussi un geste de solidarité, un geste que l'on pose dans une optique de solidarité. Et on avait vu que c'était effectivement très souvent abordé dans la Bible, où on voit plein de textes où l'offrande est donnée pour le soutien des autres, pour le soutien des pauvres, pour le soutien de ceux qui sont dans le besoin. Et vous rappelez qu'on avait parlé notamment des besoins dans la communauté locale. On voyait des textes de l'Ancien Testament, des textes du Nouveau Testament qui nous parlent du fait de soutenir l'indigent, d'aider le pauvre, de soutenir celui qui est en difficulté. Et maintenant, nous en sommes au niveau de nous rendre compte que le soutien ne concerne pas que l'Église locale. Et effectivement, la bienfaisance, les actes de bienfaisance ne concernent pas seulement une église locale, mais l'église doit s'intéresser aux besoins en dehors de son sein, aux besoins dans les autres églises, aux besoins dans le royaume de Dieu, le besoin des uns et des autres. Et donc, on était arrivé à ce niveau d'insister sur le fait que le soutien ne concerne pas que l'église locale. Alors, on peut passer. Donc ça, c'est le texte que nous venons de lire. On peut encore passer. Alors, le contexte du texte que nous venons de lire, c'est qu'en fait, Paul invite les chrétiens de l'église de Corinthe à se joindre à une collecte qui est organisée pour les frères pauvres de Palestine, de Jérusalem. Et en fait, dans le texte qu'on vient de lire, il y a d'autres églises qui ont déjà participé à la collecte. Et donc, ils ont déjà mis un petit peu dans le pot pour les chrétiens de cette église de la Palestine. Et là, l'apôtre Paul est en fait en train de les inviter à continuer l'intention qu'ils avaient de donner pour cette collecte. Et donc, il leur donne tout un ensemble d'exhortations pour qu'ils continuent dans cette œuvre-là et qu'ils puissent finalement récolter une somme qu'ils pourront envoyer pour les chrétiens pauvres de Palestine. Ça, c'est le contexte du texte. Et maintenant, nous allons essayer de voir quelques grands principes que nous enseigne ce texte, parce qu'en fait, beaucoup estiment que le texte qu'on vient de lire est le texte qui donne vraiment la doctrine de la libéralité dans la Bible, parce qu'en fait, en quelques versets, on a vraiment le résumé de tous les grands principes de pourquoi est-ce qu'on fait des libéralités, comment ça se passe, dans quel objectif et tout ça. On peut passer. Alors, premièrement, on voit dans ce texte de 2 Corinthiens 8 que la libéralité est le résultat d'un cœur touché par le Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la grâce. Nous voyons dans ce texte, et c'est comme ça que le texte commence, chapitre 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Alors ici, c'est pas la grâce au sens de la grâce qui nous a sauvés, mais la grâce que Dieu a répandue dans le peuple pour qu'ils en arrivent à avoir envie de donner. Donc, la libéralité, l'acte de donner pour les besoins des autres, c'est quelque chose qui est produit par le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit va mettre dans nos cœurs d'être touchés en particulier par les besoins d'une personne, par les besoins d'une œuvre, par les besoins d'un endroit, et la grâce de Dieu va nous pousser à agir. Vous savez qu'un élément essentiel, mais c'est vrai qu'on n'insiste pas assez souvent là-dessus, c'est que quand on dit la grâce dans la Bible, quand on dit « Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ », la grâce, ce n'est pas juste être pardonné. La grâce est aussi tout un contenu. Et c'est, toute notre vie est une vie de grâce. C'est-à-dire que quand ce qui me permet d'avoir envie de prier, c'est la grâce de Dieu en moi. Ce qui me permet de servir Dieu, c'est la grâce de Dieu. Donc, la grâce, c'est plus large que juste « j'ai été pardonné ». La grâce, c'est aussi que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour notre vie chrétienne. Dieu produit en nous tout ce qui est nécessaire pour notre vie chrétienne. Et donc, On connaît le verset, car Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Eh bien, c'est la même chose ici. Dieu produit dans le croyant l'envie, le besoin d'aider les autres. C'est une œuvre de grâce, c'est un résultat de la grâce, c'est que Dieu touche des cœurs pour œuvrer aux besoins des autres. Donc la libéralité, c'est une démonstration aussi d'un zèle pour les autres, d'un amour pour les autres. Nous sommes touchés par les besoins des autres. Nous sommes touchés par les besoins parfois de frères que nous ne connaissons pas au loin, ou alors de chrétiens de notre région. On est touché dans notre cœur de dire oh, « Ces chrétiens-là, ils vont perdre leur bâtiment. Ils n'auront plus d'endroit pour prier. Qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Parce que quand on a un bâtiment, en tant qu'église, on sait « Ah, c'est bien, on a notre bâtiment, on a notre petit frigo, machin. » Et on se dit « Mais et eux, comment ils vont faire ?» Et donc, on a un cœur touché par les besoins des autres et on va donner. Ça peut être aussi, effectivement, dans des œuvres particulières. Quand Porte Ouverte fait quelque chose pour les chrétiens persécutés, on se sent touché, on se dit « Comment est-ce qu'ils vont faire ces chrétiens-là pour ?» Et donc, on a un cœur touché qui va nous amener à donner. Donc, la libéralité, c'est vraiment une démonstration, et c'est le texte qui le dit, d'un zèle pour les autres. Le zèle pour les autres, c'est vraiment l'intérêt pour les autres. Je m'intéresse aux autres et je suis touché, zélé pour les intérêts des autres. Je ne suis pas indifférent, je ne suis pas insensible, mais je suis touché par les besoins de mes frères et sœurs au loin ou tout proche pour lesquels j'ai envie de donner. Deuxièmement, chose importante aussi, c'est que la libéralité, c'est le résultat d'un cœur conscient de la grâce de Dieu en Jésus-Christ et donc de l'œuvre de Christ. Nous donnons parce que nous sommes conscients que nous avons tout reçu en Christ, que Christ a tout donné pour nous. Il a donné sa vie pour nous, que Dieu a donné son Fils pour nous. Et comme nous avons tout reçu, ben nous sommes aussi motivés à donner aux autres. Donc ça, c'est une dynamique essentielle parce que ça nous montre bien que ben, la table, le repas du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui se limite, si vous voulez, à un moment précis de notre vie. C'est une réalité qui nous est rappelée, mais qui est censée continuer à produire des conséquences dans nos vies. Parce que tu as tout donné pour moi, je donne tout aussi pour les autres. Et donc, regardez un peu le verset qui est quand même explicite par rapport à ça. 2 Corinthiens 8, 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Donc, on le dit, « Seigneur, tu as quitté ton trône de gloire, tu as laissé tes attributs pour que nous soyons sauvés. » Eh bien, c'est la même chose. Je laisse mes attributs, je laisse ma richesse, j'abandonne une part de ma richesse pour que les autres soient sauvés. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est de se dire que nous sommes appelés en fait à ressembler à Jésus-Christ, à ressembler à Christ, qui a tout donné, il était riche, il avait plein de choses, et il s'est dépouillé pour nous. Il s'est dépouillé de sa gloire, de ses richesses, de ses honneurs, pour nous. Et donc nous disons, Seigneur, parce que tu as fait de ça pour moi, mais moi aussi, je veux être d'accord de me dépouiller pour les autres. Alors Jésus a quitté son trône de gloire, il a quitté ses attributs. Eh bien nous, lorsque nous faisons de la libéralité, ben nous quittons notre confort. Nous quittons une part de notre confort, nous abandonnons une part de notre confort pour que les autres soient enrichis. Pour que les autres soient enrichis, tout comme Jésus a abandonné sa gloire pour que nous soyons sauvés et que nous soyons enrichis. C'est fantastique, n'est-ce pas, de se dire qu'il y a une dynamique où la grâce, et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que finalement c'est vraiment quelque chose de central, c'est que souvent on ne comprend pas la grâce. En fait, on comprend souvent une grâce qui est passive et qui nous conduit à la passivité. Et voilà, tu as été pardonné, tu as été sauvé. Amen. Oui, mais en fait, cette grâce, elle active quelque chose chez nous. Tu dis, mais Seigneur, tu as laissé ton trône de gloire, tu as laissé tous tes attributs pour moi qui ne suis rien du tout. Je méritais rien, j'étais rien du tout, j'étais un étranger, tu as tout donné pour moi. Eh bien, moi aussi, pour mon frère là qui est en difficulté, pour ma sœur là, pour l'église qui est là-bas, mais moi aussi, je veux suivre ton exemple. Et donc, au plus quelqu'un a compris l'œuvre de la grâce, au plus il va comprendre comment il doit donner, pourquoi il doit donner, de quelle façon il doit donner. On peut passer. Autre élément que nous voyons aussi dans le texte, c'est que la libéralité, c'est un privilège, c'est une grâce. Vous avez lu dans un des versets que les chrétiens demandaient la grâce de pouvoir prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils suppliaient, ils demandaient d'avoir la possibilité de donner pour cette collecte-là. Ça nous perturbe, hein, ça. Parce que nous, on ne supplie pas. Si on ne me demande rien, tant mieux. Si on m'oublie, tant mieux. Mais eux, non. Ils suppliaient parce qu'ils savaient que c'était une grâce. En d'autres termes ici, un privilège de donner. C'est un privilège de donner parce que lorsque nous donnons à des personnes en difficulté, nous sommes la main que Dieu utilise pour bénir les gens. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a comme finalité d'être heureux, béni. Le chrétien souhaite être heureux et béni. Ce n'est pas un péché. Mais l'étape suivante, c'est que le chrétien veut être une source de bénédiction pour les autres. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est aussi d'être une source de bénédiction pour les autres. Et donc, ils demandaient cette grâce-là parce qu'ils voulaient pouvoir être le canal au travers duquel des gens vont être bénis. Des gens vont être heureux de dire oh, « on n'avait rien du tout, on a reçu quelque chose ». Tous ici, nous connaissons le sentiment de soulagement. Alors bon, il y a des exemples triviales. Quand on doit aller aux toilettes et qu'on est soulagé, ben, ça fait du bien. Ah, je vais faire pipi, ben, ça fait du bien, je suis soulagé. Mais aussi tous les exemples de la vie quotidienne au travers lesquels nous vivons le soulagement. Quand vous êtes soulagé, on vous téléphone, ah oui, ben, y a ton fils qui a eu un accident de voiture, et puis après on vous dit, mais ça va, il va bien. Oh. Ou alors quand vous êtes là, ben, voilà, il faut payer le loyer, j'ai pas assez d'argent, le propriétaire m'a dit que si je payais pas, j'étais dehors, et puis tout à coup, boum, de l'argent tombe, on est soulagé. Eh bien, lorsque nous donnons de l'argent à quelqu'un, nous produisons le soulagement dans la vie des autres. Les autres sont soulagés. Oh. Merci Seigneur, j'étais perdu, je ne savais pas quoi faire, j'étais complètement dans le flou et quelqu'un est venu, quelqu'un m'a donné. Donc nous devenons le canal au travers duquel Dieu fait du bien aux gens. Très souvent, à la réunion de prière, nous prions, et j'aime bien cette prière parce qu'on a tous besoin de ça, hein. Surtout moi, n'est-ce pas? Vous, ça va. Mais quand on prie, on dit « Seigneur, fais-lui du bien ». On prie parfois comme ça. Vous, Dieu, vous avez déjà fait du bien, vous n'avez plus besoin. Mais moi, oui, j'ai encore besoin qu'il me fasse. Seigneur, fais-lui du bien. Mais quand on prie Seigneur, fais-lui du bien, le bien que Dieu fait aux gens, ce n'est pas forcément avec des paillettes qui descendent du ciel. Le bien, c'est parfois d'avoir de l'argent là où on avait besoin, d'être aidé dans une difficulté, d'être soutenu, d'être accompagné. Dieu fait du bien au travers de nous. Et donc, nous devons aussi considérer comme un privilège d'être la main que Dieu va utiliser pour bénir les autres. Et donc, vous voyez qu'ils voyaient ça comme un acte de joie. Ils étaient contents de pouvoir donner. La libéralité aussi, nous enseigne ce texte, c'est le résultat d'un don de soi-même à Dieu. Notre totale appartenance à Dieu nous conduit à pouvoir céder une part de nos biens. Vous avez lu le verset où il dit « Ils se sont d'abord donnés au Seigneur, ensuite à nous, dans cette offrande. » Évidemment, la libéralité va dépendre de à quel point je suis conscient que j'appartiens tout entier au Seigneur. Comme le texte le dit, d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, et comme pour rappel, ça signifie nos personnes, d'offrir nos vies. Le texte nous dit que nous devons offrir nos vies au Seigneur en sacrifice vivant, de bonne odeur. Eh bien, au plus nous sommes conscients que notre vie tout entière est une offrande au Seigneur, au plus nous allons pouvoir céder une part de nos biens. On chante « Je te donne tout, je t'appartiens, tout en toi et pour tout en moi et pour toi » et tous ces trucs-là. « Je te donne tout, je suis tout à toi », eh bien, si je suis conscient que je suis entièrement à lui, que j'ai été entièrement racheté et donné à Dieu, si je suis conscient de lui appartenir entièrement, quand on dit qu'on accepte Jésus comme Seigneur de ma vie, Seigneur de ma vie, ça signifie « je deviens un sujet de ton royaume, je t'appartiens entièrement, je place ma vie sous ton regard, sous ton autorité, tout dans ma vie. » Et donc, quand on est conscient qu'on appartient entièrement au Seigneur, on ne va pas avoir de mal à céder une part de nos biens. Surtout que le texte nous dit qu'il ne s'agit pas de se mettre en difficulté pour aider les autres. Le texte le dit. Mais donc, effectivement, si j'appartiens tout entier au Seigneur, bon, ben voilà, si je dois donner 200 euros pour un tel, oui, ok, c'est toute ma vie appartient à Dieu de toute façon. Donc, 200 euros en plus, en moins, enfin voilà. Donc ça, c'est aussi une chose importante. Ensuite, le texte nous montre que la libéralité est un acte libre. Il ne peut pas être imposé par une personne extérieure. Vous avez lu dans le texte que l'apôtre leur dit « Je vous dis ça non pas comme un ordre, mais comme une exhortation finalement. » La libéralité, elle ne s'impose pas. On n'arrache pas aux gens leurs billets, leurs pièces, leurs... C'est un acte de bonne volonté, c'est un acte de choix, c'est un acte d'engagement libre. On n'impose pas la libéralité aux gens. Et donc, quand on fait des collectes, quels que soient les besoins, que je veux dire dans l'Église ou en dehors de l'Église, ce sont à chaque fois des actes libres. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que c'est le Saint-Esprit qui doit toucher des cœurs pour qu'ils puissent se mettre à donner et à offrir à Dieu. Autre principe, on l'a déjà vu la dernière fois, mais on peut le rappeler, c'est que la libéralité s'exerce selon un principe d'égalité. C'est que le superflu des uns pourvoit au manque des autres. Et donc, vous avez vu un peu... en fait, il reprend le texte dans 2 Corinthiens 8 qu'on a lu. Il cite, en fait, le texte qui nous parle de la manne dans le désert, où il est dit que celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. C'est-à-dire que finalement, personne ne manque de rien, parce que celui qui en a un peu trop peut en donner à celui qui en a moins, celui qui en a moins en reçoit de celui qui en a plus. Et donc, il y a un principe d'égalité, le superflu des uns pourvoit aux besoins des autres. Ça, c'est beau aussi de voir que Dieu, quand Dieu nous voit Dieu nous voit comme un peuple, comme une communauté, eh ben, en fait, pour lui, il y a un seul peuple et le but, c'est qu'il y ait équilibre entre chacun et qu'il y ait une égalité entre chacun. Et donc, effectivement, c'est en fait un principe de vase communicant, quoi. Celui qui a plus donne à celui qui n'a pas, et finalement, tout le monde a ce dont il a besoin. On peut passer. Alors, la grâce est impliquée à toutes les étapes. En fait, il y a des traducteurs qui traduisent pas le mot grâce à chaque fois, mais le mot bienfaisance, dans pas mal de traductions, il est traduit par grâce, parce qu'en fait, c'est vraiment l'origine grecque du mot. Et donc, on voit en fait que le terme grâce revient tant pour parler de la collecte en elle-même, enfin de l'acte de donner, mais que le mot grâce revient aussi avant, après, pendant. C'est intéressant de voir ça. Premièrement, nous voyons dans le texte, comme on l'a dit, que c'est par la grâce, c'est la grâce qui produit le vouloir et le faire qui conduit à donner. C'est la grâce de Dieu en nous, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu qui nous amène à dire oh, « je dois vraiment donner pour telle personne ou pour telle raison, vraiment, je dois vraiment m'engager financièrement. » Deuxièmement, c'est une grâce de pouvoir donner pour pouvoir aux besoins des saints. Ils le voyaient comme une grâce, comme un privilège. C'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu aussi que de pouvoir donner, d'avoir part à ce que Dieu fait. Et enfin, aussi, quand même, il faut quand même le dire, c'est une grâce aussi pour ceux qui sont dans le besoin de recevoir, évidemment. Eux aussi sont heureux de recevoir et d'être bénis par la grâce que Dieu leur manifeste. Donc tout ça est une affaire de grâce. La grâce touche certaines personnes pour donner, elle leur fait comprendre le bénéfice et la joie de donner, et la grâce est aussi, et c'est aussi une grâce pour ceux qui reçoivent. Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait du bien, Dieu bénit celui qui donne, il bénit celui qui reçoit, Dieu fait grâce au milieu de son peuple. On peut passer. Alors, on l'a vu aussi, c'est une démonstration de zèle et d'amour pour les autres. Vous connaissez, je rappelle encore, l'épître de Jean qui dit « Bien-aimés, n'aimons pas seulement en parole, mais en acte. » Et donc, la bienfaisance financière, c'est un acte d'amour. C'est un acte qui manifeste l'amour, l'empressement pour les autres. Alors, ça c'est 2 Corinthiens 9, 1, on ne l'a pas lu, donc on va le lire. Il est dit, « Il est superflu que je vous écrive, touchant l'assistance destinée aux saints, je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prêt depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Ils avaient un zèle pour les besoins des autres. Et intéressant de noter que ce zèle a stimulé les autres. Votre zèle a stimulé les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment tenir vraiment en valeur pour la question des offrandes et pour d'autres questions. C'est que dans le peuple de Dieu, la stimulation des uns produit la stimulation des autres. Et donc, il y a les premiers qui commencent à donner se disent « bon, on va essayer de faire quelque chose ». Et puis les autres se disent « bon, ils ont donné, ben, nous aussi on va donner ». Donc, il y a comme ça une énergie au sens spirituel du terme de stimulation de certains qui enclenchent le pas et des autres qui suivent. Et donc, dans le peuple de Dieu, on doit aussi travailler là-dessus et se dire « mais quand moi je fais quelque chose, je stimule aussi les autres ». Hein, quand je donne, je stimule les autres. Quand je sers dans l'église, je stimule les autres. Quand je viens au culte, je stimule les autres. Et nous nous stimulons comme ça les uns les autres, ainsi qu'il est écrit, excitez-vous aux bonnes œuvres. Excitez-vous aux bonnes œuvres. Et donc, la bienfaisance, parfois, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas toujours quelque chose de, comment dire, que l'institution décide. Il y a des moments dans l'Église où certains, une personne peut avoir à cœur un besoin particulier et proposer de dire « Ah ben voilà, il y a telle chose, est-ce qu'on ne ferait pas ceci ou est-ce qu'on ne ferait pas cela ? Ah, est-ce qu'on n'organiserait pas ceci ?» Donc, c'est aussi, Dieu met dans le cœur des gens, des envies, des inspirations et ça stimule les uns et les autres. Alors, Romains 15, 25 dit ceci « Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. » car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Donc il y a aussi, il y a en dehors de l'assistance dans les choses spirituelles, nous devons à nos frères également une assistance dans les choses temporelles. Temporelle. Dans les questions de maison, de voiture, d'argent, nous devons aussi une assistance temporelle à nos frères et sœurs. Une démonstration de zèle encore, 2 Corinthiens 8, je crois que ça doit être 14 et pas 24, qui dit ceci, donnez... Non, c'est bien 24. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de vous glorifier de nous glorifier de vous. Mais donc, vous voyez, la preuve de votre charité. Qu'est-ce qui prouve ma charité? Quels sont les actes que je pose qui peuvent être des preuves suffisantes de ma charité? Est-ce que ma charité s'arrête au bout de mes lèvres ou est-ce qu'elle se manifeste jusqu'à mon portefeuille? Et il y a un ouvrage intéressant qui posait la question, vous êtes converti? Oui. Est-ce que votre portefeuille est converti aussi? Parce que parfois, la conversion, elle s'arrête juste en nous. Ah oui, je parle plus comme avant et tout ça. Mais mon portefeuille n'est pas converti. C'est-à-dire que mon argent sert toujours aux mêmes choses qu'avant et je n'ai pas amené mon portefeuille à changer de priorité et de répartition et d'objectif. Or, nous devons aussi veiller à avoir un portefeuille qui soit converti. On peut passer. Alors, le texte aussi que nous avons lu, et c'est intéressant, nous montre une première chose à dire, c'est que le texte nous montre que nous devons exceller dans la bienfaisance, comme dans le reste. C'est intéressant. Ça veut dire que la bienfaisance dans la vie chrétienne, ce n'est pas un à côté. Ce n'est pas un truc en plus pour ceux qui ont envie, pour ceux à qui ça parle. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Nous devons exceller dans la bienfaisance. C'est-à-dire ne pas nous contenter du minimum, c'est-à-dire ne pas faire ça avec négligence, c'est-à-dire réellement mettre tout notre cœur dans la bienfaisance. Mettre tout notre cœur là-dedans aussi. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, le texte nous montre quand même que nous devons exceller dans tout le reste aussi. Alors, mais comme vous abondez en toute chose, donc là, ils mettent abonder, mais d'autres versions disent exceller en toute chose, mais comme vous excellez en toute chose, en foi et en parole et en connaissance et en tout empressement et en tout amour, abondez aussi dans cette grâce. Vous voyez, je vous parlais du fait que, voilà, certains traduisent grâce, d'autres traduisent bienfaisance, mais c'est la même chose. Et donc, il dit qu'on doit exceller dans cette œuvre de bienfaisance, mais qu'on doit exceller dans tout le reste. Exceller dans la foi, exceller dans la parole, exceller en connaissance, exceller dans la prière, exceller dans tout, n'est-ce pas ? Et exceller également dans la bienfaisance. C'est intéressant qu'ils le mettent dans la liste, parce que nous, on ne la mettrait pas. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention à tous nos laïus qu'on répète toujours. Oui, mais tu sais, Dieu ne regarde qu'au cœur, et tous ces trucs-là. Oui, c'est vrai, Dieu regarde au cœur, mais à un moment donné, le cœur doit produire des choses aussi. Et donc, Dieu ne regarde pas qu'à ma foi dans mon cœur. Dieu ne regarde pas qu'à mon amour dans le cœur. À un moment donné, il regarde aussi à mes actes d'amour, à mes gestes d'amour. Est-ce que j'excelle dans mes gestes d'amour ? Ou est-ce que j'excelle juste dans des sentiments comme ça ? Donc la bienfaisance, ce n'est pas un à côté de la vie chrétienne. Ce n'est pas un truc en plus, c'est constitutif de notre compréhension de la grâce. Si j'ai compris la grâce de Dieu, alors je considère que je dois aussi faire du bien aux autres, enrichir les autres en m'appauvrissant un peu. Alors la Bible nous dit aussi, nous montre aussi que la bienfaisance doit s'exercer avant tout envers les gens de la maison de Dieu. Alors Galates 6, 9 à 10 dit ceci, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » C'est un verset important. C'est un verset qui nous aide. Alors, je me souviens d'une étude biblique, pas ici, où on s'était cassé la tête sur ce verset, parce que c'est pas facile à comprendre tout le temps. Mais alors, comment on fait alors ? Mais donc, le verset dit que nous devons commencer par les gens de la maison de la foi, c'est-à-dire les frères dans la foi. Donc, concrètement, il est normal qu'en tant que chrétiens, nous soyons touchés par les besoins du monde également. On ne va pas être seulement touché par les besoins de l'Église. Mais, comme chrétiens, nous devons d'abord nous intéresser aux besoins de nos frères. D'abord, nous intéresser aux gens de notre Église, aux gens de notre région, aux chrétiens de notre Église, aux chrétiens de notre région, aux chrétiens de notre pays, aux chrétiens du monde, et ensuite aux non-croyants. Alors, ça peut paraître choquant, mais ça ne l'est pas tant que ça, en réalité, puisqu'il s'agit quand même de prendre soin de ceux qui ont part à la vie éternelle. Donc, voilà, c'est quand même notre communauté avec laquelle nous sommes spirituellement liés. Je rappelle que la communauté chrétienne, elle existe par un lien spirituel. Et donc, nous sommes spirituellement, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque homme, chaque femme née de nouveau authentiquement, est liée aux autres chrétiens sur la terre. Et donc, nous devons d'abord nous soucier de leurs besoins et prendre soin des besoins de nos frères. Et ensuite, nous devons effectivement donner pour d'autres choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un chrétien, je vais donner ça comme exemple, ne va pas d'abord se dire « Ben moi, je vais donner au Télévis ou tout d'autres trucs, je vais d'abord donner pour les besoins de mes frères. » Et il y a un principe dans la Bible que vous connaissez, c'est que Dieu me demande d'abord de m'occuper de mon prochain, c'est-à-dire celui qui est à côté de moi, avant de m'occuper de celui qui est au loin. Et donc, je m'occupe d'abord des besoins de ma famille. Ça, c'est pas l'Église, mais c'est quand même la Bible qui le dit. D'abord ma famille, évidemment. Puis les gens de mon Église, puis les gens autour de mon église, et ensuite seulement, ben, je m'intéresse aux besoins de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, il faut se dire aussi une chose importante, c'est que ça donne une force à une communauté, et vous connaissez ça parce que, enfin, on le dit même dans les journaux et tout ça, il y a des communautés culturelles parfois qui ont des systèmes de ressources en interne qui les rendent particulièrement forts. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a certaines cultures dans lesquelles, si tu as besoin d'argent, tu as toujours ton cousin ou un cousin, un gars de ta culture, un gars de ta race qui de quoi donner. Et donc, finalement, c'est des gens, parfois, je regardais une enquête policière où il disait, oui, mais ce gars-là, c'était un Pakistanais. On essayait de le retrouver, de faire une enquête. Et puis le policier dit, mais tu sais, on le retrouvera pas parce que eux, ils ont un système de soutien en interne de leur culture. Donc ils ont des richesses. Même s'il a pas d'argent, il va en trouver chez ses frères. Il suffit. Ils ont des systèmes en interne de soutien qui leur permettent de fonctionner. Alors là, je donne l'exemple des Pakistanais, mais il y a plein d'autres cultures et peut-être d'autres endroits. Mais vous voyez que, indépendamment des ressources qui peuvent être des ressources financières ou des ressources données par l'État et tout ça, une communauté se solidifie par le fait qu'elle se donne des ressources en interne. Le jour où on va commencer la persécution des chrétiens, qu'on va nous empêcher d'être dans nos églises, qu'on va nous chasser et tout ça, comment est-ce que nous allons survivre ? Et par ce soutien en interne, ce soutien des croyants les uns par rapport aux autres. Les chrétiens qui sont dans des autres pays qui n'ont rien, comment ils font ? Mais ils reçoivent de l'argent, justement, d'autres chrétiens de la communauté. Donc, ça donne une force, si vous voulez, à une communauté, ici, dans le cas de la communauté de la foi, d'avoir des ressources et de partager nos ressources, d'abord entre nous, vis-à-vis de tout ce qui peut s'opposer à nous. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée. Donc c'est quelque chose quand même qu'il faut aussi se rendre compte de ça, c'est que c'est la force aussi de l'Église de ne pas dépendre tout le temps de l'extérieur, mais d'avoir en interne des systèmes d'aide qui permettent aux uns et aux autres de tenir bon. On peut passer. Alors aussi, ben là, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais aussi dire une chose importante, c'est que la bienfaisance, là on sort un peu de la bienfaisance parce que c'est vraiment l'offrande en général, a aussi un objectif essentiel sur lequel on pourrait parler beaucoup plus, c'est le soutien au ministère de l'Évangile. Par nos dons financiers, nous soutenons le ministère et l'avancement de la proclamation de l'Évangile. Et là, effectivement, c'est l'apôtre Paul qui parle de ses besoins et qui dit qu'on subvient à ses besoins. Eh bien, lorsque nous donnons aussi, nous subvenons aux besoins du ministère de l'Évangile. Nous permettons à l'Évangile de continuer à se propager. Donc, lorsque nous donnons de l'argent, par exemple, pour un missionnaire qui est au bout du monde, eh bien, au travers de notre offrande, nous permettons à ce missionnaire de continuer à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et que des âmes encore soient sauvées. Donc je peux sauver des âmes au travers de mon argent. Parce que lorsque je donne de l'argent pour que ce missionnaire puisse boire, manger, avoir une voiture, acheter des flyers, eh bien je permets que d'autres gens encore annoncent l'Évangile. C'est fantastique de se dire ça, de se dire que par mon argent, par ma libéralité, il y a des âmes qui sont sauvées au Pakistan, en Inde, au Rwanda. Il y a des âmes qui sont sauvées à cause de notre argent. Et donc, c'est important de comprendre ça, parce que souvent, beaucoup d'entre nous, nous allons dire, ben moi, je n'ai pas le temps de gagner des âmes, je travaille à temps plein. Je travaille à temps plein, je n'arrête pas, je suis toujours à gauche, à droite. Ben oui, ben, par ta libéralité, tu permets à l'Évangile de continuer à se propager au travers d'autres que toi. Et donc, peut-être que tu gagnes, je ne sais pas quel calcul il faut faire, mais si une personne, imaginons, gagne 100 euros par jour dans son travail et que sur le mois, elle donne 200 euros pour un missionnaire, ben ça veut dire qu'il y a deux jours du mois où je travaille pour les besoins de l'Évangile. Donc, il y a deux jours où je me lève et où je sais que mon travail d'aujourd'hui va me rapporter de l'argent et que cet argent, je l'utiliserai pour l'avancement de l'Évangile et pour que des âmes soient encore sauvées. Donc, il faut se rendre compte de cette dynamique aussi. Il y a des gens qui sont à temps plein pour servir Dieu, mais ils sont soutenus par ceux qui travaillent et qui, effectivement, par leur argent, leur permettent de vivre et de continuer à servir Dieu. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu continue à avancer. Parce que si tout le monde est à temps plein et que tout le monde travaille à temps plein et que personne n'a le temps de rien, ben alors, qui annonce l'Évangile, qui fait des flyers, qui fait tout ça? Et donc, effectivement, il y a un système comme ça qui permet au royaume de Dieu de croître. Mais évidemment, le système repose sur le fait que chacun joue son rôle. Si les gens qui doivent travailler ne donnent rien, Ben, ceux qui doivent évangéliser ne savent pas le faire. Et finalement, voilà, tout le royaume de Dieu est déforcé. On peut passer, on va arriver vers la fin. Donc ça nous permet d'aider d'autres personnes à servir le Seigneur avec notre argent. On peut passer. Et aussi, une chose importante à dire, c'est que la libéralité, c'est aussi un don spirituel. Ça, c'est quand même quelque chose d'important à préciser. C'est que la Bible place la libéralité dans une liste des dons spirituels. Ça veut dire quoi? C'est toujours le même principe. Un don spirituel, c'est quoi? C'est une grâce particulière que Dieu donne à quelqu'un pour l'édification du corps de Christ. Alors, c'est pas parce que c'est un don spirituel qu'il y a que ceux qui ont ce don-là qui doivent donner, évidemment. C'est comme le don d'encouragement. C'est pas parce que j'ai pas le don d'encouragement que je dois pas encourager les autres. C'est simplement que Dieu donne à certains, en particulier, un don qu'il fait qu'ils sont particulièrement généreux. Et donc, il faut aussi parfois que nous nous intéressions à ça. Est-ce que c'est mon don? Est-ce que c'est pas aussi mon don? Est-ce que c'est pas la grâce que Dieu m'a donnée d'être particulièrement généreux? Et peut-être qu'effectivement, ben moi je ne prophétise pas, peut-être que je n'ai pas le don d'encouragement, peut-être que je n'ai pas tel ou tel don, mais au travers de mon argent, je fais croître le royaume de Dieu. Et on s'en rend pas compte, hein, mais je sais qu'ici c'est le cas aussi, hein. Mais il y a des gens qui donnent parfois des sommes extrêmement importantes pour des œuvres, pour le royaume de Dieu, des gens qui donnent vraiment beaucoup. Et en donnant beaucoup, eh bien, ils permettent au royaume de Dieu de continuer à croître. Et donc, c'est important de ne pas oublier ce don-là. C'est aussi un don spirituel. C'est une grâce que Dieu déverse dans certains cœurs de donner en particulier pour l'œuvre de Dieu. Eh bien, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse chacun.